Europe, Juliette Rangeval.
L'Europe comme un dernier recours face aux violences faites aux enfants. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 55 millions d'enfants et d'adolescents souffrent de maltraitance en Europe. Et derrière ce mot, maltraitance, se cachent des réalités multiples, des affaires qui défraient la chronique de la France à l'Italie ou à la Suisse. En juin dernier, la France a été condamnée pour faute lourde par la Cour européenne des droits de l'homme pour n'avoir pas pris de mesures suffisantes afin de protéger Marina, morte en 2009, à l'âge de 8 ans, sous les coups de ses parents, malgré un signalement à la justice. Les parents de Marina Sabatier ont été condamnés à 30 ans de réclusion criminelle pour actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort. Mais leur procès a aussi été celui des institutions. Et cette condamnation exceptionnelle de l'État français par la CEDH, après 5 années de procédure, a déjà permis de revoir la défense des enfants maltraités. Un homme a joué un grand rôle dans toute cette affaire, un avocat, Maître Grégory Tuan dit Dieudonné, spécialiste des droits de l'enfant, qui a plaidé le dossier à Strasbourg. Son portrait est signé Robin Dussène.
Robe d'avocat accrochée sur le porte-manteau, pile de dossiers méticuleusement alignés, porte-carte positionnée avec soin, le bureau de Grégory Tuan dit Dieudonné est à son image, droit et organisé.
Je m'astreins à avoir cette discipline, cette rigueur-là. C'est peut-être aussi mon éducation protestante qui veut que on doit être rigoureux dans ce qu'on fait. Après, c'est aussi un trompe-l'œil, parce que je vous fais pas voir les placards, mais il y en a pas mal, ouais.
À 44 ans, l'avocat spécialiste des droits des enfants a eu la responsabilité de défendre le dossier Marina Sabatier devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, la plus haute juridiction continentale, avec pour objectif de faire condamner la France pour la défaillance de ses services sociaux.
Je crois que c'est mon pire dossier, hein. J'ai jamais vu un dossier aussi dramatique, avec un tel niveau de souffrance et de violence, compte tenu aussi de l'âge de la victime, hein, qui était le souffre-douleur de ses parents. Donc c'est une vie de souffrance à partir de ses 2 ans. Elle a subi des violences répétées, des mauvais traitements, de ce qu'on appelle des actes de torture et de barbarie, jusqu'à son décès.
Les parents de Marina seront condamnés à une lourde peine, un jugement insuffisant pour les associations Innocence en danger et Enfance et Partage qui s'étaient portées partie civile et qui décident alors d'intenter un procès contre l'État français.
Elles ont fait ce procès donc devant les juridictions parisiennes qui les ont déboutées en disant qu'il n'y avait eu absolument aucune faute commise par les services de l'État.
Après un pourvoi rejeté par la Cour de cassation, les deux associations conduisent l'affaire jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est à ce moment-là que Maître Tuan dit Dieudonné se rapproche d'Innocence en danger et devient leur avocat.
Maître Tuan, il a eu tous les rôles.
Omeyra Sellier, la présidente d'Innocence en danger.
Dans ce qui est devant la CEDH, il n'y a rien à dire, c'est Maître Tuan qui l'a porté, c'est Maître Tuan qui a correspondu, qui demandait les pièces qui manquaient et qui a travaillé sur les pièces qui manquaient autant que nous. Maître Tuan a eu un rôle, je dirais, déterminant dans cette victoire, il n'y a rien à dire. C'est un homme qui est rigoureux, c'est un homme qui est précis, qui est humain, très humain. Parce qu'avoir accepté de travailler bénévolement, c'est énorme ce qu'il a fait.
Jugendamt, moi, ce que j'ai pu constater, c'est des pouvoirs absolument exorbitants. Un budget de 35 milliards d'euros.
En tant que spécialiste des droits des mineurs, Maître Tuan est amené à défendre des parents français qui ont perdu tout droit de garde de leur enfant après avoir divorcé de leur conjoint allemand. En effet, le Jugendamt, l'administration chargée de l'aide sociale et de la protection de la jeunesse, considère systématiquement qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de vivre en Allemagne. Dans cet extrait issu du film « Déchirure de famille », on l'entend au Parlement européen devant une assemblée d'eurodéputés.
Et si vous regardez ce que représente finalement le Jugendamt, ce n'est qu'un outil, de contrôle finalement, très invasif.
Dès ses années d'étudiant, Grégory Tuan voit plus loin que la France. Il étudie notamment le droit européen à l'université de Lund en Suède avant d'intégrer la Cour européenne des droits de l'homme en tant que juriste référendaire, ce qui lui donne une certaine appétence pour les affaires à l'international.
Là, je défends actuellement des Indiens d'Amérique, des États-Unis, une tribu du Massachusetts, qui veut que les États-Unis reconnaissent leur statut de natif américain, ce qui leur ouvrirait l'obtention de droits particuliers. Également, j'interviens devant la Cour africaine des droits de l'homme pour certains individus, et notamment des hommes politiques d'envergure. Je suis vraiment satisfait, pour l'instant, en tout cas je touche du bois, de mon aventure dans le monde des avocats, parce que ça vous donne l'occasion finalement de faire librement ce que vous voulez.
Cour européenne des droits de l'homme, Cour africaine des droits de l'homme, Interpol, l'avocat franco-vietnamien a un pied dans de nombreuses juridictions internationales. À présent, Grégory Tuan, dit Dieudonné, souhaiterait partager son savoir et développer la formation.
En Italie, ce scandale qui n'en finit pas de secouer la société depuis près d'un an maintenant, à Bibbiano, une ville moyenne de 10 000 habitants en Émilie-Romagne, dans le nord-est du pays, une enquête de police a mis au jour un trafic présumé d'enfants de la part des services sociaux censés pourtant les protéger. Des personnalités politiques seraient aussi impliquées. Les détails avec Cécile Debarge.
D'un côté, des familles à qui les enfants ont été retirés pour mauvais traitement. De l'autre, une vingtaine de travailleurs sociaux, psychologues, membres d'une association d'aide à l'enfance et responsables politiques locaux qui prennent en charge ces enfants, en théorie, pour les protéger. Et au milieu, une question persistante à laquelle tente de répondre l'enquête Angers-Démon, commencée en mai 2018 et rendue publique le 27 juin 2019 en Italie. Ces enfants étaient-ils vraiment en danger? Devaient-ils être retirés à leurs parents et placés en famille d'accueil? Les premiers éléments de l'enquête jettent un sérieux doute sur les expertises délivrées par les professionnels de la protection de l'enfance. Les dessins des enfants auraient été transformés pour y représenter des violences familiales qui n'ont en réalité jamais eu lieu. Leurs propos à la psychologue et aux assistantes sociales auraient été déformés et manipulés dans de faux rapports. Les lettres et les cadeaux que les parents envoyaient à leurs enfants cachés dans un cagibi pour faire croire aux enfants que leurs parents biologiques ne voulaient plus d'eux. Les juges ont déjà permis à 4 enfants de retrouver leur famille. 24 personnes ont été renvoyées devant la procura de Reggio d'Émilie le 30 octobre prochain, dont le maire de Bibbiano, membre du Parti démocrate. Plus de 200 témoins seront appelés à la barre. En attendant l'audience préliminaire de cet automne, plusieurs associations et quelques familles se réunissent de nouveau le 18 juillet prochain pour demander toute la vérité sur cette affaire. Anyway, I can try anything, it's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now anyway, I've lost my face, my dignity, my look, everything is gone.
En Suisse, c'est une affaire qui est encore taboue, le traitement réservé aux enfants du placard dans les années 60. On les appelle ainsi car à l'époque, les travailleurs étrangers venus participer au développement de la Suisse n'avaient pas droit au regroupement familial. Par peur d'être expulsés, des milliers d'enfants, de saisonniers, vivaient ainsi cachés dans les maisons. Une correspondance de Jérémy Lanche.
Les enfants du placard sont les victimes du climat de xénophobie qui plane en Suisse au moment des Trente Glorieuses. On loue très souvent la Suisse pour la vitalité de sa vie démocratique et la fréquence avec laquelle les Suisses sont invités à se prononcer dans les urnes. Dans les années 60, cette vitalité est surtout perçue comme une menace pour les plus de 200 000 travailleurs étrangers de Suisse. Un texte soumis au vote tente de les expulser du pays. L'initiative Schwarzenbach, du nom de son promoteur, sera refusée de justesse dans les urnes. Mais un climat xénophobe s'installe en Suisse. Les Italiens, les Espagnols et les Portugais venus construire les infrastructures essentielles de la Suisse sont pointés du doigt, alors qu'ils n'ont pourtant quasiment aucune chance de s'installer durablement en Suisse. Sarah Cani est historienne à l'université de Neuchâtel.
Ces personnes vont venir sur un régime qu'on appelle le régime de saisonnier, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir rester pendant une période définie qui est une saison. Ensuite, elles vont devoir rentrer dans leur pays. Elles vont éventuellement être réembauchées l'année d'après, mais ce n'est pas une garantie. Un certain nombre de ces saisonniers faisaient venir leurs compagnes, leurs enfants. Et la seule manière d'éviter l'expulsion, c'était donc d'avoir enfermé en fait, les enfants dans les appartements. Parfois pendant plusieurs mois, parfois pendant plusieurs années. Et parfois, ces enfants étaient en âge d'aller à l'école. Et donc, ben voilà, ils ne pouvaient pas aller à l'école, ils ne pouvaient pas sortir des appartements.
Très peu de données existent sur ces enfants cachés. Ils seraient entre 10 et 15 000 à avoir vécu dans le secret. Pour les familles qui étaient dénoncées, le choix se résumait à retourner dans leur pays d'origine. d'origine ou placer ses enfants dans des orphelinats, les parents étant obligés de travailler pour garder leur permis de séjour. C'est ce qui est arrivé à Fiorenza di Bucchianico. Séparée de sa mère quelques jours seulement après sa naissance, elle a raconté son histoire dans un documentaire diffusé il y a quelques années à la radio-télévision suisse.
Je pense que c'est des sentiments qui sont restés, justement ce sentiment d'être abandonné par les parents. Quand on est tombé, c'est pas eux qui nous ont pris, c'est des autres. On a dû aller chez des dames, chez des sœurs, des étrangers. C'est pas ma maman qui nous prenait dans les bras si on se faisait mal, ou mon père qui pouvait nous protéger parce qu'ils étaient pas là. Il y a beaucoup qui ne le savent pas, cette histoire. Il y a une ignorance de cette histoire-là.
Difficile également de savoir ce que sont devenus ces enfants. Avec l'assouplissement de la loi dans les années 80 et la suppression en 2002 seulement du statut de saisonnier, la plupart seraient restés en Suisse. Après des années de silence, certains commencent à prendre la parole pour demander des comptes à l'État.
Très récemment, je dirais, on commence à avoir des personnes qui ont la volonté d'en parler publiquement pour demander des réparations. Après, il y a de temps en temps, de la part de l'extrême droite en Suisse, donc de l'UDC, des initiatives régulièrement pour remettre en place le statut saisonnier. Donc, c'est-à-dire que ces histoires-là ressortent.
Et tout juste 50 ans après le rejet de l'initiative Schwarzenbach, la droite nationaliste fait à nouveau campagne pour restreindre l'immigration en Suisse, avec un texte soumis au peuple à la rentrée et combattu par le gouvernement et la quasi-totalité des partis.
Presque un mois de la présidentielle en Biélorussie, retour sur la personnalité du blogueur Sergueï Tikhanovski, très critique du président Alexandre Loukachenko qui se représente pour un nouveau mandat après 26 ans passés au pouvoir. Sergueï Tikhanovski souhaitait se présenter à la présidentielle. Il était devenu très populaire sur les réseaux sociaux ces derniers mois. Il a été arrêté, emprisonné et inculpé pour événements violant l'ordre public. Une affaire que les observateurs estiment monter de toutes pièces. Son portrait par Anastasia Becchio.
Lorsque je me suis lancé dans cette activité, je comprenais que cela pourrait se terminer par de la prison.
Quelques jours avant sa dernière arrestation, Sergueï Tikhanovski se confiait à l'antenne biélorusse de la Deutsche Welle. Encore inconnu du public il y a peu, ce père de famille qui se présente comme un entrepreneur a lancé des vidéoblogs devenus rapidement très populaire. Dans un pays où les médias sont contrôlés, il a donné une voix au peuple, explique Olga Kach, responsable de l'ONG de défense des droits de l'homme Najdom.
Il a donné une tribune aux gens des petites villes, aux ouvriers, aux retraités, aux enseignants, aux médecins. Toutes ces personnes se sont exprimées devant sa caméra et ont parlé des problèmes du quotidien. Et les gens y ont vu le reflet d'eux-mêmes.
Résultat, son audience a grimpé en flèche. Sa chaîne YouTube, un pays pour la vie, compte 243 000 abonnés avec des vidéos visionnées parfois plus d'un million de fois. Une popularité qui ne pouvait qu'inquiéter l'inamovible Alexandre Loukachenko, comme l'explique le politologue biélorusse Artyom Shraiman.
Il parle la même langue que parlait Alexandre Loukachenko il y a 26 ans et il s'adresse au même électorat. Il parle aux gens des régions, aux pauvres. Ce sont des personnes qui ont sûrement soutenu le pouvoir dans le passé, mais il s'en prend aussi de manière assez grossière au président en personne. Son slogan, c'est « Stop aux cafards » à l'adresse de Loukachenko. Il s'est permis d'offenser publiquement le président, ce qui n'était pas autorisé jusque-là. Et en ce sens, il devenait menaçant, parce qu'il sapait la base de soutien d'Alexandre Loukachenko.
Cela fait 26 ans que le dictateur dirige l'État avec incompétence et négligence criminelle. Des centaines de vidéos sur ma chaîne le prouvent. Il s'est emparé de toutes les branches du pouvoir. Il est impossible d'exprimer son avis. Il est impossible de se réunir. Il est impossible de faire de quelconque changement. Tous les Biélorusses ont peur. Les gens redoutent de perdre leur travail et ils se taisent. Il faut en finir. Des changements attendent la Biélorussie. 2020, c'est l'année du changement. Stop aux cafards.
Des déclarations qui valent aujourd'hui à Sergueï Tikhanovski d'être emprisonné. Il risque de passer plusieurs années derrière les barreaux. Alexandre Loukachenko a d'ailleurs reconnu avoir donné l'ordre de l'arrêter. Aujourd'hui, les proches du blogueur redoutent qu'il ne subisse des tortures. Photographié au tribunal en début de semaine, l'homme de 41 ans, au physique de boxeur, est apparu très amaigri, méconnaissable. L'épouse de Sergueï Tikhanovski, Svetlana, a fait acte de candidature pour la présidentielle, mais rien ne dit que la commission électorale l'autorisera à aller jusqu'au bout.
En 2016, Marine Medic décide de tout quitter, de partir en Allemagne. Sa famille, qui vit de l'agriculture dans l'est de la Croatie, vient de perdre presque toute sa terre. Mais alors qu'il s'apprête à quitter le pays, comme l'a fait son père avant lui, Marine découvre l'initiative de Berry Organica. C'est une coopérative écologique de baies, tout juste lancée en Croatie. Il décide alors de se lancer à son tour dans l'aventure du ASCAP. C'est une sorte de myrtille qu'on appelle aussi le chèvrefeuille bleu. Reportage de Giovanni Valle à Golinci, près de la petite ville de Donji Miogliac, en Slavonie, c'est près de la frontière hongroise.
Au milieu des buissons qui lui arrivent à la taille, Marine Medic inspecte les petites baies bleues qui ressemblent à des myrtilles. Un demi-hectare planté il y a 5 ans.
Quand nous sommes restés sans terre, j'ai essayé, comme la plupart de mes amis qui sont finalement partis à l'étranger en Allemagne pour travailler, j'ai essayé de trouver quelque chose à faire qui me permettrait de rester ici. Il fallait trouver une production suffisamment rentable pour faire vivre toute la famille et tout ça sur une superficie réduite. Et finalement, on a décidé que ça serait le ASCAP.
Aujourd'hui, la ferme de Marine Medic produit 300 kg de ASCAP, ces petites baies bleues vendues sur Internet à 10 euros le kilo. C'est encore une petite production, mais les choses devraient s'améliorer dans quelques années.
Le ASCAP est une culture qui demande beaucoup d'efforts, mais qui donne aussi beaucoup. Le principal problème, ce sont les mauvaises herbes. Il faut bêcher et désherber. Après, il y a le moment de la cueillette, qui présente aussi ses difficultés. Il faut trouver assez de main-d'œuvre, car il faut récolter les baies à la main. Mais lorsque la plante est adulte, elle produit 2 kg par buisson, contre 200 à 300 grammes actuellement.
En attendant que sa production de baies lui garantissent un revenu plus important, Marine Medic travaille dans une autre ferme comme employé, comme ses deux frères. Et à la maison, la famille vit grâce à ses brebis, ses cochons et ses poules, et bien sûr son potager. Car pour l'instant, le ASCAP est surtout un pari. S'il réussit, Marine espère racheter la terre qu'il a perdue.
Je ne pars plus en Allemagne, mais j'espère que bientôt notre Croatie, notre gouvernement écoutera davantage les jeunes agriculteurs et qu'il nous donnera plus d'outils et de possibilités pour obtenir ces terres étatiques. Car malheureusement, l'agriculture sans terre, ce n'est pas possible.
L'accès à la terre, c'est le grand problème de l'agriculture en Croatie. Il y a 400 000 hectares de terres agricoles étatiques dans le pays, mais pour un jeune qui veut s'installer, il est très difficile d'obtenir un bail agricole. Comme nous l'explique le journaliste Miroslav Kuskunovic, spécialiste du monde rural, installé devant une limonade dans un café de Zagreb.
Pour les jeunes producteurs, c'est le problème principal. Car pour lancer une exploitation agricole, il faut déjà avoir de la terre. Je m'explique. L'État attribue prioritairement les terres qui lui appartiennent à ceux qui ont déjà du foncier. Donc les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer sont défavorisés. Et c'est pour ça qu'ils sont déçus. Ils considèrent qu'ils devraient avoir un accès prioritaire.
L'autre difficulté, c'est l'instabilité des règles foncières. Depuis l'indépendance de la Croatie en 1991, il y a moins de 30 ans, Miroslav Kuskunovic a compté 80 réformes de la loi sur l'agriculture.
Le problème, ce sont les décisions politiques qui changent très souvent en passant du gouvernement central aux autorités locales. Cela laisse la place à toutes les manipulations. C'est un problème, même pour ceux qui louent déjà une terre. Ils ne peuvent pas se concentrer sur le développement de leur business car ils ont constamment peur de perdre leur champ. Par ailleurs, les terres sont attribuées sur des critères politiques. Et ça, c'est un problème structurel que la Croatie n'a pas su résoudre et qu'on retrouve constamment. Et à chaque nouveau gouvernement, ça recommence à zéro.
Pour le jeune Marine Medic, retrouver sa terre s'annonce donc difficile. Surtout que la Croatie vient de renouveler son parlement et qu'un nouveau gouvernement doit être formé.
Accent d'Europe réalisé avec le soutien de la Direction générale Agriculture et Développement Rural de la Commission européenne. À la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et vous pouvez bien sûr vous abonner aussi via votre plateforme de diffusion préférée. À bientôt.